Lorsque j'ai considéré à préparer ce message, et tout au long du processus, je me disais, bien, est-ce que c'est approprié, est-ce que c'est ce qu'il faudrait. Mais après l'introduction qu'Alain nous a faite, je suis assez convaincu de partager ce que j'ai sur le cœur. Il consiste justement à mettre le Seigneur en avant, à être pas égocentrique, mais christocentrique. Et puis je me réjouis aussi de ce qu'on peut ensemble, même si on n'est pas spécialement nombreux, de pouvoir apporter au Seigneur notre reconnaissance, notre appréciation de ce qu'il a fait pour nous et de la façon dont il nous traite. En fait, le Seigneur, il est aussi satisfait, il a aussi besoin d'une certaine satisfaction et on peut la lui rendre par par les demandes qu'on peut lui rendre. Donc j'avais pensé, c'est pas la première, c'est vrai. Voilà, merci. J'avais pensé partir d'après ce verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Principalement, ce verset m'intriguait par cet aspect de ces trois parties, tout votre être, l'esprit et l'âme et le corps. La version Darby et puis les originaux insistent sur le... Donc ici on a l'esprit, l'âme et le corps, mais c'est l'original, il y a le « et » qui sépare encore l'esprit de l'âme pour bien montrer que c'est trois choses séparées. Et je me souviens, il y a très longtemps, avoir entendu un prédicateur essayer d'expliquer ce que c'était que l'esprit et l'âme, et il nous avait laissé entendre qu'il fallait être très avancé spirituellement pour pouvoir faire une différence entre l'âme et l'esprit. On avait déduit que je n'étais pas suffisamment avancé, qu'il fallait me débrouiller tout seul. Et pendant longtemps, je me disais, bon, ben, l'âme et l'esprit, et c'est aussi une théorie, une interprétation qui est courante aussi pour certains théologiens, c'est de considérer que l'âme et l'esprit sont deux mots pour la même chose. Mais dans le verset suivant, on voit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc si dans notre intelligence et nos capacités on mélange un peu les deux, eh bien la parole nous donne la possibilité de faire la séparation entre ces deux et de considérer que l'âme, c'est pas l'esprit, et l'esprit, c'est pas l'âme, et que les deux sont choses distinctes. C'est vraiment important, et pendant longtemps, j'ai mélangé les deux, je me disais, bon, l'âme, c'est quand c'est plus spirituel, plutôt un peu mystique, comme ça, et puis l'esprit, on dit quelqu'un qui a un esprit fort, qui a une bonne intelligence, c'est plutôt une capacité personnelle, personnalité. Mais on a vraiment besoin de pouvoir différencier dans notre expérience qu'est-ce qui est des opérations de l'esprit ou qu'est-ce qui est des expressions de l'âme. Distinguer le spirituel du psychique. Pas prendre l'un pour l'autre. Mais ce n'est pas si évident que ça peut paraître à cause de notre culture, de nos habitudes et puis de notre vocabulaire. Alors, pour commencer, j'aimerais citer une diapositive, voir comment est-ce que Dieu a conçu les choses. Dans la Genèse, lorsqu'il a créé l'homme, il nous a dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, et puis que l'homme est devenu une âme vivante. On a les trois éléments ici, on a le corps, fait la poussière de la terre, dans le Job, on voit clairement que c'est l'argile. Et puis, Dieu a soufflé dans cette forme, il a donné un souffle de vie, et puis est apparue l'âme qui est la jonction, le pont entre les deux. Si on voit la diapo suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a mis l'homme, l'être humain, dans son beau jardin, dans ce jardin d'Éden, et lui a donné la possibilité de manger de tous les arbres du jardin qui étaient bons à boire, bons à manger. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc Dieu n'a pas dit tu vas faire le bûcheron, tu vas raser tous les arbres, il ne doit rester que l'arbre de la vie. On a la possibilité dans notre vie humaine de profiter des choses de la vie qui nous sont offertes, des choses normales, qui sont là pour notre bien, pour notre satisfaction. Mais il y avait ce fameux arbre, la connaissance du bien et du mal, qu'il ne fallait pas toucher, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'abord, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a à voir avec les pommiers. Hein. Le fruit qui se trouve sur cet arbre, c'est connaître le bien, c'est connaître le mal, c'est rendre l'homme indépendant de Dieu. Jusque-là, sans cette connaissance, il était dépendant de la direction de Dieu et puis il pouvait vivre par la force, par la vie de Dieu. Le moment qu'il a ingurgité de cette connaissance, qu'il a voulu être indépendant, eh bien, Dieu a dit, tu mourras. Certes, les humains ne sont pas morts du jour au lendemain, Adam et Ève ont vécu assez longtemps, mais pour Dieu, l'homme, à ce moment-là, il est mort, son esprit est sclérosé, il n'y avait plus de communion entre Dieu et l'homme directement. Et pourquoi? Bien, bon, il y a une... Parce que là, l'être humain a pris le star, il l'a vu, il a trouvé que c'était bon, il a mangé, et le résultat dans Genèse, c'est que le chapitre plus loin, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. En fait, la mort de l'esprit, c'est la cessation de sa communication, de ses communications avec Dieu. Ceci a duré durant tout l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste, il ne vient pas donner la vie à un homme, il vient saisir un homme. On a par exemple l'exemple de Samson, qui vit une vie assez dépravée, mais par un coup, Dieu, son esprit saisit Samson et peut accomplir un exploit. Mais c'est ponctuel, c'est momentané. Et dans l'Ancien Testament, cette communication avec Dieu, elle est donnée par Dieu, mais pas d'une façon complète comme de nos jours. Et ceci va durer jusqu'à ce que Christ vienne sur terre, jusqu'à ce qu'il vienne accomplir son ministère. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus a parlé déjà avant d'avoir passé à la croix et d'être enterré, ressuscité et monté en ascension avant la Pentecôte. Il a déjà dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, mais il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On voit que jusque-là, cet esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'était pas encore. On n'avait pas la possibilité de recevoir en nous pour qu'il vienne nous animer. Parce qu'il fallait que Jésus, le Dieu, Dieu fait homme, passe par tout ce processus de la crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'ascension pour qu'il devienne l'esprit qui donne la vie. Et Jésus l'annonce aussi ici dans Jean 15. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et on doit être attentif et savoir que par la nouvelle naissance, eh bien, nos corps sont devenus le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite maintenant dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu peut habiter en nous. Alors si on revient maintenant à ce verset de départ, pour un peu y voir plus clair, il faut aller regarder comment est-ce que ça a été écrit dans l'original. Et on voit que l'esprit, quand il parlait de l'esprit, c'est le mot pneuma. Et pneuma, en grec, ça a donné pneumatique, c'est-à-dire des choses qui ont quelque chose à voir avec l'air, ça peut être traduit par l'esprit, par le souffle, par le vent, par l'air. Par exemple, lorsque Jésus parle avec Nicodème, quand il lui dit l'esprit, je ne sais pas d'où il vient et d'où il va, c'est comme le vent, et bien c'est le vent et puis l'esprit, c'est le même mot dans ce verset, dans ce passage. Pneuma. C'est ce qui nous met en contact avec Dieu, avec lui-même. Et on peut voir dans cet aspect de l'esprit trois directions différentes. C'est ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu, c'est ce qui nous permet de recevoir ses intuitions, son ressentir en nous. Et dans l'aspect de l'esprit aussi, la conscience qui nous accuse, qui nous justifie, cette conscience qui peut être modelée aussi par rapport à ce qu'on vit, par rapport au temps présent. Donc, ça n'a pas à voir avec... Dans la Bible, quand il parle d'esprit, il n'est pas parlé de notre intelligence. C'est quand il est parlé de l'âme qu'on retrouve l'intelligence. L'âme, ce mot, c'est psyché, et puis ça a donné psychologie, psychiatrie, enfin, tout ce qui est psy. Et puis dans l'âme, on trouve l'aspect de la volonté, l'aspect du sentiment, ou l'aspect de l'intelligence, qui peut permettre d'avoir un peu trois directions qui qualifient l'âme. Et ça, c'est notre personnalité, c'est notre moi personnel. Certains sont très volontaires, ils ne réfléchissent pas trop, ils n'ont pas de sentiments, ils foncent comme des bulldozers, tout doit s'écarter parce qu'ils ont une forte volonté. D'autres sont dans les sentiments. Alors, un jour c'est magnifique, un jour ils sont sous le char, ils sont heureux ou malheureux suivant les circonstances. Et d'autres sont cartésiens, ils analysent, ils réfléchissent, ils en arrivent à une déduction. Et puis, voilà. Mais en fait, on a tous ces trois aspects, et puis un jour c'est un peu plus un, une autre fois c'est un peu plus l'autre. Mais c'est ce qui constitue notre moi, et puis ce moi est tellement entretenu par la civilisation aujourd'hui, que l'esprit est confiné à l'intérieur de nous-mêmes et il n'a pas la possibilité de se manifester si facilement. Et puis le corps, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec le monde physique, on peut voir, sentir, toucher. Et ces trois devraient être en équilibre. Dieu a créé l'homme avec ces trois parties. Si le corps prend toute l'importance, on devient centré sur soi-même, sur sa petite personne, sur ses intérêts, etc. Et puis, on ne réfléchit plus très bien. Et puis, l'esprit, Dieu ne peut plus nous mouvoir, nous commander, nous diriger. Si au contraire, on est tout dans l'esprit et puis on est super spirituel, on va peut-être devenir des moines et on n'aura plus de soin de notre propre corps et puis on va être illogique. Donc les trois sont là pour être en équilibre. Dieu ne va pas négliger, on ne doit pas négliger notre corps, on ne doit pas non plus faire une idole, on ne doit pas non plus dire je ne réfléchis plus, je crois tout ce que je vois au premier degré, puis c'est voir. Croire, penser que Dieu nous inspire continuellement, il pense prendre nos idées, nos sentiments pour la volonté de Dieu, mais on doit être habitué à faire la part des choses. C'est donc le point à régler, c'est de savoir si les facultés de notre âme vont être contrôlées par notre vie naturelle, ou par la vie surnaturelle. Cette âme, elle se trouve, notre moi, notre personnalité, se trouve faire le joint entre les deux. Si le corps l'emporte, ça va nuire à l'esprit. Si l'esprit est tout en esprit, on ne va plus s'occuper de notre corps, ce qui n'est pas juste. Donc notre âme, elle doit être vraiment sous. Elle doit être maîtrisée. Et c'est ce combat de la foi en quelque sorte. C'est savoir que la Bible dit que notre moi, notre ancienne vie, notre chair, a été crucifiée. Et à la croix, elle n'a plus le droit de prendre toute la portance, elle doit se laisser diriger par l'esprit, pour que l'esprit a besoin de notre intelligence, de nos sentiments et de notre volonté pour entrer en action et faire nous voir transformer aussi notre attitude et notre corps. Il y a l'exemple du grain de blé que Jésus nous donne. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruit. Notre âme doit être amenée à la croix et on doit se admettre ce fait. Parce que c'est déjà été fait, on n'a pas besoin de mourir, on n'a pas besoin de se crucifier, mais lorsque Christ était à la croix, il nous a pris avec lui, et là, nous pouvons considérer, d'après Romains 6, nous considérer comme étant crucifié avec Christ, mort avec lui. Et quand notre corps veut prendre l'importance, on prend le dessus, ou que le monde veut nous influencer, on peut se souvenir qu'on n'a plus redevable au péché, puisque Christ a porté ce péché à notre place. Alors il y a l'Esprit de Dieu, puis il y a notre esprit qui, par la nouvelle naissance, redevient vivant, se mélange avec l'Esprit de Dieu, vient se connecter avec notre esprit, et notre possibilité de relation avec Dieu est restaurée. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il n'y a pas l'esprit de Dieu puis notre esprit, mais ils vont devenir tellement unis que ça fera plus qu'un. Par conséquent, je dis donc, dans l'acte, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a les deux extrêmes. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si on est conscient d'être né de nouveau de Christ, alors on peut aussi transmettre cette vie, cette façon de vivre, juste dans notre corps et dans nos actions de tous les jours. Bien entendu, c'est quelque chose qui paraît totalement déplacé, et même insensé pour celui qui n'est pas né de l'homme. La Bible parle de l'homme animal, de l'homme naturel, c'est-à-dire dont l'esprit est mort. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, dans Corinthiens. Maintenant, c'est intéressant de voir. Qu'est-ce que l'âme dans la Bible ? Dans Jacques, on voit qu'on est invité à rejeter toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On a de nouveau et encore et toujours la parole qui se manifeste. Le retour à la parole, c'est cette parole qui est Dieu qui est devenue. La parole était Dieu, elle était faite chair, la parole divine. Eh bien, cette parole permet d'une part de faire une séparation, comme on l'a vu dans Hébreux 4, de séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. C'est pas par notre intelligence, pas par nos bonnes habitudes, mais c'est par la parole qui permet d'aller séparer. Parce que c'est deux, avec la tradition, puis l'habitude d'avoir un esprit qui est inactif, on a conscient si facilement de cette intuition, de cette communion avec Dieu. On ne le ressent plus quand on dit « j'aimerais que Dieu nous parle » et puis on prend ses idées et son imagination pour la volonté de Dieu, mais on doit soumettre cette intelligence, le sentiment spécialement, à la parole et le confronter avec la parole pour s'assurer que c'est la volonté de Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et cet Esprit peut aussi purifier notre âme. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. La vérité, c'est de nouveau la parole. Pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous vraiment les uns les autres de tout votre cœur. Et Jésus nous invite dans Matthieu, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de nouveau pour nos âmes. » Notre âme, elle est toujours en train de basculer d'un côté ou de l'autre. Le monde est tellement puissant, est tellement Satan dans le monde, le prince du monde est tellement à l'œuvre et subtil pour nous attaquer, que notre âme tendance à attirer de ce côté. L'esprit réagit, mais si on ne fait pas attention, on va partir de nouveau dans les détours. Le but de l'opération, c'est que l'âme n'exerce plus d'influence sur l'esprit et que l'esprit ne soit pas sous l'autorité de l'âme, ni dans un sens, ni dans l'autre. Si l'âme ne devient pas pour l'esprit le chemin de la liberté, alors notre âme va bloquer l'efficience, l'efficacité de l'esprit en nous. En quelque sorte, l'Esprit de Dieu est venu dans notre âme, à l'intérieur, et puis elle est dans cette espèce de carcasse qui doit de cuirasse, en quelque sorte, dure, de coquille qui est dure, qui doit être fondu, qui doit être éclaté, qui doit être brisé, pour que l'esprit puisse se manifester au travers de l'âme et pénétrer, arriver jusque dans les actions de notre corps. Et c'est donc que lorsque la croix a fait son œuvre sur la vie de l'âme, que l'esprit de Dieu peut vraiment être libéré dans nos vies. C'est Dieu a voulu l'homme libre, c'est notre libre arbitre. On a une âme qui nous permet de choisir la parole de Dieu, de choisir la volonté de Dieu, ou au contraire, de la bloquer et de pencher pour ce qui est agréable et ce qui nous paraît intelligent. Donc l'âme est en fait le pont entre les deux, et puis elle est entre nos mains, elle est nous qui sommes responsables de ce qu'on doit faire. Et puis le corps, bien, le corps c'est assez facile, mais en le sein on nous pose assez de problèmes, mais il doit être maîtrisé. Le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, mais livrez-vous membres au péché, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donnez-vous vous-même à Dieu, c'est notre choix. C'est notre choix dans la vie de tous les jours, c'est notre libre arbitre de décider, de choisir. Est-ce que j'accepte ce que Dieu dit comme il le dit, ou bien est-ce que je adapte à ma façon de penser, est-ce que je moule dans le monde actuel, dans ma façon de vivre actuelle, ou bien est-ce que c'est vraiment une vérité absolue. Donc ces trois aspects, l'esprit, l'âme et le corps, doivent être en équilibre. S'il y en a un qui prend plus d'importance, qui prend un développement excessif, mais les autres, les deux autres, vont être affectés tout le temps dans l'autre sens. Et notre vie naturelle peut être un un immense, formidable obstacle au développement de la vie spirituelle. Mais c'est notre choix. On peut, si je comprends la foi, on peut vouloir se plier à ce que la Bible dit, ou bien vouloir adapter la Bible à une autre façon de penser. Et maintenant, il y a encore une image que j'ai mis là. Ce bonhomme, c'est, en fait, l'âme, c'est notre moi, c'est notre libre arbitre. Et très souvent, on est en train, ben, celui-ci ici, il est en train d'essayer de maintenir en équilibre son moi, qui l'aveugle totalement, il ne sait plus, voir plus où il va, et puis il est continuellement en train, ça va se terminer, c'est l'étape où ça va être la catastrophe. Et ben, on a le choix, hein. C'est notre décision, c'est notre choix. Dieu ne force personne, Dieu ne l'oblige pas, mais il offre son esprit, avec son esprit la possibilité de dominer nos instincts naturels, nos instincts de base, qui nous permettent d'être libérés du péché. Les chrétiens qui vivent dans leur âme, parce qu'on peut avoir l'esprit en nous et puis laisser mijoter l'ensemble, laisser la liberté de se manifester, et puis avoir une forte personnalité, eh bien, on peut faire de notre vie propre le centre de chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Si on tient tellement à sa droite, quand on est dans notre âme, c'est pour notre propre satisfaction, pouvoir comprendre, pouvoir savoir, quoi, expliquer. Si on a tellement besoin d'être de nos sentiments, de sentir, c'est parce qu'on est dans la jouissance. Si on est tellement actif, c'est souvent pour réaliser nos plans, nos désirs, et notre moi peut être au centre de toute notre vie et être le but suprême. C'est dans le but suprême de l'histoire, ce serait de tirer une gloire personnelle de tout. Il faut savoir que pour attaquer quelqu'un, Satan, il faut autour de nous comme un lion, autour de notre corps, et il va se servir de sa première faille venue. Il est à l'affût de nos failles. Il ne peut pas. Il a besoin d'une déficience dans l'activité du Saint-Esprit en nous pour pouvoir nous attaquer. Et ce qu'il va chercher, c'est principalement une occasion par notre corps, par un besoin, par une convoitise, ce qu'il a fait avec Ève, pour pouvoir pénétrer dans nos idées, dans notre raisonnement, dans notre logique, dans nos sentiments, et puis de là, bloquer l'efficacité de l'esprit. Chaque fois qu'on s'attache à quelque chose d'humain, qu'on a tellement d'intérêt ou d'influence pour ces choses, on révèle en quelque sorte à Satan un point de faiblesse. Et il va bien réussir de trouver la faille pour pouvoir nous attaquer. D'où la nécessité toujours que notre âme passe au travail. S'appuie sur la révélation de la parole, sur la parole de Dieu, pour pouvoir bénéficier de la liberté, de la victoire que Jésus nous a acquise. Donc maintenant, il y a encore un verset dans Deutéronome, je n'ai pas l'œil, mais je n'ai pas lu. Dans Deutéronome 3, on peut lire, bon, c'est un verset assez connu, mais où Dieu dit, j'en prends aujourd'hui, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et voilà le conseil, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. C'est notre liberté, c'est notre choix, c'est notre libre arbitre, c'est le travail à faire dans le cadre de notre âme, c'est-à-dire de notre intelligence, de nos raisonnements, de nos sentiments, et puis de notre volonté qu'on peut volontairement soumettre à la parole ou fermer, bloquer pour que la parole ne puisse pas agir. Et c'est en fait là que se trouve le secret de la vie chrétienne, victorieuse ou non victorieuse. C'est pas fait une fois pour toutes, c'est chaque jour et chaque moment qu'on doit se souvenir, ou bien je choisis la vérité de la parole, que je considère comme la vérité, ou je la mets en doute, et alors c'est les influences du monde qui vont avoir la victoire sur moi. Et comme Alain l'a répété tout à l'heure, lorsque Jésus parle avec les Samaritaines, il dit bien, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, la parole et l'esprit que Dieu nous a donné, sans s'apitoyer sur nos petites difficultés ou les choix que l'âme, que le corps voudrait nous proposer par les miroirs ou les alouettes que le monde nous offre. À nous de choisir, à nous de vivre d'une manière et de choisir. Dieu nous a préparé la victoire, nous donne la victoire, la liberté, mais c'est notre choix d'opter pour ou de mettre de côté et de renoncer. Le Seigneur nous donne assez de respect pour lui et pour sa parole, pour qu'on sache faire les bons choix dans notre journalisme.
À bientôt sur notre site.